12h30, 13h, chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour.
Bienvenue, bienvenue à vous, chers auditeurs de RKS 97FM, dans votre émission L'Invité du Jour, qui aujourd'hui reçoit la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, qui, depuis de fort longues années, 1985, c'est une vieille dame, dispense des conseils, mais aussi un lieu ressource, des conférences, bref, anime toutes les questions autour de la nature et de l'environnement. Et c'est aussi un lieu où sont fédérées de nombreuses associations qui travaillent dans ce sens-là et qui font aussi de l'éducation à ces questions écologiques, environnementales et autour de la question de la nature. Afin d'en parler, je suis en compagnie aujourd'hui de Rachel Julien, la chargée de projet au sein de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. Rachel, bonjour et bienvenue au micro d'RKS.
Bonjour, merci.
Alors comment allez-vous en cette rentrée à la Maison de la Nature et de l'Environnement ?
Très bien.
Tout se passe bien.
Ouais. On est sur les starting blocks, les programmes se mettent en place.
Très bien. Alors, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'est cette Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. Vous avez plein de pans que vous développez, mais déjà, on peut dire que c'est un lieu où se partagent des expériences, des compétences, où sont mutualisés des moyens pour tous ceux, toutes les associations notamment, qui adhèrent à votre structure et qui travaillent dans ce sens effectivement de la protection de la nature et aussi, on pourrait dire, qu'ils font la promotion des méthodes pour préserver l'environnement. On est bien dans ces champs-là.
Oui, tout à fait, oui. Là, on réunit maintenant 40 associations du territoire, donc sur toute l'Isère. Il y a même certaines associations qui ont des envergures nationales, voire internationales. Et on se regroupe tous dans cette Maison de la Nature et de l'Environnement qui, en plus du réseau que ça apporte aux associations, permet de travailler ensemble, de mutualiser des choses, d'avoir des salles aussi, tout simplement, des bureaux.
C'est un lieu
de partage.
Alors aujourd'hui, qui sont les associations qui sont hébergées au sein de votre Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère ?
Donc, comme je vous disais, il y a 40 associations adhérentes. Donc, on va peut-être pas faire la liste.
Non, mais dans des champs très divers.
Mais voilà, il y a vraiment des champs très divers. Donc, il y a des associations qui travaillent autour du vélo, par exemple, avec les ateliers vélo, le recyclage, la clavette, ou des alternatives à la voiture individuelle, comme la DTC se déplacer autrement. Mais il y a aussi des assos très naturalistes, comme Jean Siana, qui travaille sur la protection de la flore, ou la LPO, sur la protection de la faune. Des associations historiques comme la FRAPNA, qui ne s'appelle plus la FRAPNA d'ailleurs, qui s'appelle FNE Isère depuis peu. Des assos autour de la montagne, des assos autour de l'astronomie. C'est très, très, très large. Et on est tous là ensemble avec un but commun de protéger et de parler de l'environnement.
Est-ce que Grenoble, on peut dire que c'est une ville qui a, alors mis à part les questions politiques mais les citoyens sont sensibles à ces questions-là, parce qu'effectivement Grenoble est dans une géographie très particulière, entourée de montagnes, avec des parcs naturels autour, avec beaucoup de végétation, beaucoup de faune également. On sent une attention particulière de la population autour de ces questions de protection de la nature et de contact aussi avec celle-ci.
Oui, tout à fait. Et puis c'est historique. Hein. La MNEI, ça fait 35 ans qu'on existe, parce qu'il y a des acteurs qui sont bien plus anciens que ça sur le territoire. Donc effectivement, certains expliquent ça par la proximité des montagnes qui sont là, présentes tout le temps et qui nous attirent.
Et qui nous rappellent aussi à leur protection et à leur utilité vitale pour nous, en termes d'eau, d'air.
Oui, et puis c'est cette relation à la nature qui est toujours présente, et cette nature immense. Enfin, voilà, quand on se retrouve tout petit au milieu des montagnes, on développe peut-être cette affinité particulière à vouloir protéger cette...
Alors, la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère est quand même installée 5 places Birakem, pour ceux qui ne le sauraient pas encore.
Tout à fait.
C'est un lieu qui est ouvert au public, puisqu'effectivement, vous avez des adhérents des associations de protection de la nature et de l'environnement qui sont, adhérentes à votre structure, qui peuvent bénéficier des différents pôles que vous y développez. Mais le grand public, vous et moi, les citoyens, peuvent venir frapper à la porte.
C'est ça. Tout le monde est... Donc, c'est vraiment un lieu ouvert. Donc, effectivement, il y a les adhérents aux associations, qui vont rencontrer les associations. Donc les bureaux sont dans les étages, mais tout le rez-de-chaussée de la MNUI est ouvert au public. Donc on a une médiathèque qui est spécialisée en environnement, donc c'est quand même la seule médiathèque du territoire spécialisée, avec un fonds documentaire assez poussé.
Oui, parce que vous avez plus de 12 000 ouvrages, c'est
oui,
ça ?
Oui, donc il y a un espace adulte et il y a un espace jeunesse. Il y a un espace ressource aussi pour les professionnels de l'éducation et l'environnement. Enfin, c'est un lieu assez riche. Et puis, il y a une salle de conférence où il se passe beaucoup de conférences tout au long de l'année. Mmh. On a un espace à l'extérieur aussi, on a un jardin aménagé avec des plantes sauvages locales, avec un compost de quartier partagé. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu de vie ouvert à tous.
Donc c'est vraiment important aussi pour la structure que vous représentez aujourd'hui d'avoir un lien direct avec les citoyens qui vivent autour, tout simplement. Mmh. De dire que c'est la maison, et c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, qui est dédiée justement à des relations permanentes de dialogue avec les citoyens sur leurs envies, leurs questions et leurs besoins, tout simplement, en termes d'information, puis aussi de peut-être de changer les gestes au quotidien qui permettent de mieux respecter la nature et l'environnement.
Mmh. Tout à fait, oui. Ouais, on est une association qui, voilà, comme on le disait, a un rôle pour les autres associations, mais pour les citoyens, même les structures, les entreprises, les collectivités qui ont besoin de conseils, de ressources. Donc nous, on est là pour ça. Donc on n'aura pas forcément, nous, dans l'équipe MNUI, la petite équipe MNUI, on n'aura peut-être pas les compétences, mais de par ce réseau, on va mettre en lien, en contact.
Oui, parce que la question que je me posais également, c'est effectivement, on touche le monde associatif, qui est toujours très militant et très engagé sur ces questions-là, notamment les particuliers aussi, à titre individuel. Mais est-ce que les collectivités locales, par exemple, peuvent s'appuyer sur vous ? Est-ce que des entreprises qui voudraient faire attention aux rejets, aux déchets, à leur manière de consommer, alors quelle qu'elle soit, que ce soit l'eau, l'électricité, des énergies, par exemple, l'isolation, enfin bref, il y a plein comme ça d'aspects écologiques, de protection de la nature et de l'environnement qui peuvent aussi être présentes dans le monde de l'entreprise, tout simplement. Vous avez demandes, des gens qui viennent vous voir en disant...
On a des demandes, oui, tout à fait. Donc les collectivités, on travaille avec, on fait partie de certains comités de pilotage de Grenoble-Alpes Métropole, par exemple. Ou de la mairie de Grenoble. Les entreprises nous contactent. Donc, soit on fait, nous, des actions de sensibilisation, des propositions d'amélioration, d'accompagnement, etc. Ou alors, on les met en lien. Donc, si c'est sur des notions d'économie d'énergie, etc., on va les mettre en contact avec l'ALEC. On est vraiment un lieu distributeur de...
Oui, vous redispatchez les informations et puis les besoins selon les personnes qui pourraient répondre au mieux finalement à la question posée. C'est bien ça la question.
Exactement.
Alors parmi les volets aussi d'éducation, on pense évidemment à la jeunesse, puisque ce sont les futurs citoyens qui seront en charge de notre belle société, n'est-ce pas ? C'est un volet important pour vous d'aller à la rencontre justement des différentes structures qui fédèrent la jeunesse locale. Alors les MJC, les écoles, les collèges, les lycées, etc. Donc vous faites aussi des interventions, c'est cela, sur des thématiques précises. C'est à la demande, c'est en recevant les gens. Comment ça se passe, justement, la relation qui se noue avec la jeunesse grenobloise, largement, de l'agglo ?
Alors, on a plusieurs actions. On a, par exemple, on a deux prix littéraires, donc en lien avec notre médiathèque. Donc, c'est deux projets qu'on a en partenariat avec la Maison de l'Environnement de Lyon. Donc, c'est un projet à ampleur régionale. Mmh. Et donc, il y a par exemple un prix qui s'appelle Lire pour demain. Donc, on fait une sélection de livres. L'ensemble des lycéens de la région qui souhaitent participer s'inscrivent. Et ils ont toute l'année pour s'approprier les livres, voter, faire des projets pédagogiques autour. Et à la fin de l'année, il y a une remise de prix avec la rencontre des auteurs, avec l'ensemble des lycées qui ont participé, etc. Donc là, il y a encore des places disponibles.
Appel est fait à la population lycéenne.
Oui, en fait, les inscriptions ne sont pas encore finies. Là, donc
ils peuvent s'inscrire jusqu'à quand pour participer à ce prix-là ?
Alors ça, la date exacte, allez voir sur notre site internet. Oui. Mais par contre, je sais qu'il y a encore des places.
MNUI.fr.
MNUI.fr. Donc ça, il y a encore des places, les inscriptions sont encore là. Donc c'est tous les enseignants qui souhaitent de lycée. Qui souhaitent participer sont les bienvenus.
Donc ils vous contactent, etc.
Ils contactent ma collègue qui s'appelle Zoé, qui s'occupe de la médiathèque.
Très bien, mais en plus qu'on est dans les livres, on va aussi parler du prix du livre Environnement, n'est-ce pas, que vous, chaque année, vous proposez. Comment ça se passe, justement
Alors, c'est un peu la même formule dans le sens où c'est un prix des lecteurs, donc ce sont les lecteurs qui votent. Mais là, donc, c'est une sélection adulte qu'on propose à toutes les structures partenaires qui ont envie de s'inscrire au projet, donc essentiellement des médiathèques, mais il y a aussi des entreprises, des comités de lecteurs qui s'inscrivent. L'idée étant qu'ils proposent pendant plusieurs mois cette sélection de livres à leurs lecteurs et sur le même principe, les lecteurs votent. Là ça va être jusqu'à fin octobre. Et pareil, donc les structures qui participent ont la possibilité d'accueillir les auteurs, d'organiser des événements autour de ça. Et puis à la fin, pareil, remise de prix. Voilà. Donc c'est aussi une opportunité pour les auteurs de éventuellement nous contacter.
Oui, puis de rencontrer aussi un public, de discuter des questions. Alors il y a toujours un aspect un peu contradictoire avec la protection de la nature et de l'environnement, c'est que souvent on nous dit oh, c'est chiant quoi. Je dis ça un peu crûment. Non, mais je veux dire, oui, on fait la promotion de tout ça, mais il y a un côté un peu comme ça, d'écologie punitive, c'est vraiment le mot, un petit moment. Justement, vous faites attention à ce que ce soit, pas forcément le trait ludique, mais en tout cas que ça soit accessible, que ça soit un réflexe, que ça soit une pensée qui s'insère dans la culture, dans la vie quotidienne. En fait, c'est pas seulement un bastion à défendre avec un drapeau. Il y a aussi quelque chose de naturel, de dialogue qui s'effectue avec les citoyens.
Nous, notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser, mais alors sans aucune notion punitive, effectivement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de formes différentes. On a ces prix littéraires, on a des semaines thématiques, on a des conférences, on a des accompagnements. C'est vraiment, on fait de l'accompagnement au changement de comportement, mais on ne va pas forcer les gens à changer de comportement.
Oui, c'est ça, vous n'êtes pas dans la moralisation ou dans la culpabilisation, mais bel et bien dans comment faire au quotidien pour avoir des gestes qui préservent l'environnement.
Oui, des gestes ou une meilleure compréhension. Ça passe aussi par des découvertes.
Est-ce qu'on peut, justement, avec le temps, le recul et puis l'expérience que vous avez, justement, de cette promotion des différents biais que vous mettez en place à travers effectivement les livres, les conférences, les expositions, les projections, bref, tous les outils que vous développez, vous sentez que les gens ont une meilleure connaissance, une meilleure appréhension et une curiosité accrue aujourd'hui sur ces questions-là?
Alors, clairement, oui. La prise de conscience environnementale, elle est globale. Enfin, ça, il n'y a pas à se poser de questions. Notre rôle là-dedans, évidemment, je ne peux pas l'évaluer, c'est sûr. Et puis, on n'est pas du tout les seuls à agir dans ce sens-là, mais tant mieux. Et de toute façon, les faits sont là. Et donc, on est là pour accompagner les personnes qui se posent effectivement de plus en plus de questions, pour certains sont découragés, pour d'autres ils sont super motivés, et puis pour d'autres c'est beaucoup de loisirs aussi. Enfin voilà, quand on fait des sorties en pleine nature pour aller observer l'espèce migratrice qui passe à ce moment-là. Enfin, c'est du loisir aussi. Donc c'est
oui,
pas,
d'où l'intérêt aussi.
Immoralisation.
C'est ça. D'où l'intérêt aussi.
Ça passe par la découverte. Et, ouais.
Bien sûr. La curiosité. En fait, c'est éveiller aussi la curiosité du citoyen sur des questions qui peuvent nous paraître un peu éloignées, effectivement, sur des niches comme ça. Parce qu'effectivement, certaines associations défendent une espèce particulière de batraciens ou d'oiseaux qui. Alors, ça peut être très, très pointu, mais après, la jouissance de la nature, elle peut être aussi faite de manière très, très joyeuse, très, très ludique.
Tout à fait. Et puis surtout, nous, on est vraiment là pour faire le lien entre tous ces thèmes-là. Enfin, pourquoi on a des associations qui parlent de vélo et puis d'autres qui parlent de protection des oiseaux? Parce que, en fait, pour nous, tout est lié. Enfin,
c'est le fameux cycle.
L'environnement,
c'est un circuit.
Quand on va faire du vélo. Mais par contre, certaines personnes vont utiliser le vélo parce qu'ils ont une conscience écologique, parce que c'est la qualité de l'air, etc., etc. Et puis d'autres vont utiliser le vélo parce que c'est juste très, très pratique.
Oui, puis on a de belles jambes.
Et peu
plus.
Importe, en fait. Et peu importe, on a tendance à dire, peu importe la motivation, pourvu que ça aille dans le bon sens.
C'est ça. On fait une première pause sur RKS 97 FM dans votre émission L'invité du jour qui reçoit aujourd'hui Rachel Julien, chargée de projet au sein de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. On écoute un petit peu de musique douce sur RKS et on se retrouve tout de suite après.
imagine there's no heaven. Sees if you try. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard.
Chaque jour sur RKS, c'est l'invité du jour. L'invité du
jour. Vous êtes bien sur RKS 97FM dans votre émission L'invité du jour qui reçoit aujourd'hui Rachel Julien, chargée de projet au sein de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère qui depuis 1985 œuvre, eh bien, comme son nom l'indique, pour la protection de l'environnement et pour respecter cette belle nature grenobloise notamment qui nous entoure. On parlait des différents pôles que développe la Maison de la Nature et de l'Environnement en collaboration et en complémentarité avec les associations qui sont hébergées dans leurs murs, et de dire aussi que c'est par l'éducation, la rencontre avec les publics, jeunes ou moins jeunes, les structures, les collectivités, que eh bien, petit à petit fait son chemin ce respect que l'on doit à cette nature. Et ben, c'est un peu une question de survie aussi quand même là aujourd'hui, donc il va falloir faire un peu attention les gars. Donc on parlait de tout ça, vous développez donc à l'année des semaines thématiques aussi justement, 4 par an, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez nous en parler, Rachel Julien, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Donc, les semaines thématiques, ça s'inscrit dans notre programme annuel d'action, donc de conférences, de rencontres, d'expositions, etc. Et donc, on a 4 semaines par an qu'on essaye de positionner pendant les vacances scolaires. Le concept étant qu'on donne un sujet à nos associations et en retour, elles nous proposent une animation, une expo, un atelier, une sortie, bref, ce qu'elles souhaitent en fonction de leur expertise. Et comme ça, on construit un programme sur une semaine sur lequel on communique.
À destination du grand public.
À destination du grand public. Et quand c'est pendant les vacances scolaires, du coup, on communique spécifiquement auprès des centres de loisirs, MJC, etc., parce qu'on peut, du coup, accueillir des groupes pour qu'ils puissent participer à ces activités.
Et donc là, le prochain, la prochaine semaine thématique aura lieu à la Toussaint, donc ?
Tout à fait. Donc là, on a proposé une semaine thématique dans le... Donc on s'inscrit, on essaye toujours de s'inscrire dans un événement un peu plus gros. Donc là, on s'inscrit dans le cadre d'une saison pour la planète. C'est un programme annuel qui est coordonné par la CASMAT. Et donc, cette semaine thématique, ça va s'appeler « Cycle en tout temps ». Donc le mot, le thème qui a été lancé, c'est cycle. On pense que nos associations vont se l'approprier.
Donc c'est un peu un mot valise du coup.
Voilà, cycle des planètes, cycle des saisons, cycle biologique, les cycles vélo, bicyclette. Mmh. On va construire comme ça. Avec elle, tout un programme sur une semaine.
Alors l'intérêt aussi pour tous finalement, c'est que vous avez donc une lettre d'information qui est mensuelle, sur laquelle on peut avoir tout l'agenda, les actualités notamment.
Exactement.
Et puis une lettre aussi par saison justement qui récapitule ce qui se passe un peu in situ, intramuros, oui. dans les locaux, la maison de la nature et de l'environnement. Donc il suffit d'aller sur votre site, de s'y inscrire et on reçoit ça par mail.
C'est ça.
Comme ça on est au courant, au long cours on pourrait dire, des choses que vous organisez à l'intérieur et en extérieur de la maison de la nature et de l'environnement.
Tout à fait.
Vous avez proposé au printemps dernier aussi une action assez symbolique de votre envie aussi de pas être déconnecté du fil de l'actualité dans lequel la société vit, tout simplement. C'est le programme, le projet R, Environnement, Insertion, Réfugiés, qui a été lauréat de l'appel à projet de Climat Plus de la métropole grenobloise.
Oui.
Pourriez-vous en dire un petit mot, s'il vous plaît ?
Tout à fait. Donc, c'était un projet assez novateur. donc, on a répondu à l'appel à projet Climat Plus de la métro. Donc, c'est un appel à projet qui lance chaque année à destination des structures et des enfants de 7 à 13 ans. Et donc, à cette occasion, on s'est associé avec ADOMA, qui est un centre d'hébergement notamment un centre d'hébergement sur la commune de Cessiné-Parisé, qui nous avait contactés parce qu'ils souhaitaient mettre en place des activités pour les personnes réfugiées qu'ils accueillent dans leurs locaux, pour sortir de...
d'un quotidien, c'est un petit
nécessaire.
Peu âpre,
et puis ils sont très accompagnés sur des cours de français, sur des démarches administratives, sur toutes ces choses-là, mais finalement un peu déconnectés du reste des activités, du loisir qu'ils vont vraiment s'insérer dans la société et sur leur nouveau territoire. Donc on a développé ce projet qui consistait à proposer un atelier par mois sur des thèmes différents, ouvert aux adultes et aux enfants hébergés à ADOMA. Donc on a fait comme ça 6 ateliers qui leur ont permis à la fois de découvrir le nouvel environnement dans lequel ils vivent, de faire des échanges culturels, de connaître le tissu associatif, de faire des... Un échange très humain comme ça qui s'est passé avec les intervenants.
Et sortir donc, aussi, découvrir l'environnement immédiat, enfin, c'est-à-dire les montagnes.
On a fait une sortie avec l'association Mountain Wilderness où ils ont une action tout au long de l'année qui consiste à sensibiliser les gens à aller dans la montagne sans utiliser la voiture. Et bien là, c'était tout à fait approprié. Il y a un groupe de résidents qui s'est inscrit pour faire une sortie sans voiture, découvrir les montagnes environnantes, prendre de l'altitude. Alors, du coup, ça a été une...
Oui, prendre de l'altitude à tous les niveaux, de manière au sens propre comme au sens figuré, absolument. Alors, une chose que j'aime bien, moi, chez vous aussi, à la Maison de la Nature et de l'Environnement, c'est que vous avez une granothèque.
Oui.
Je trouve ça assez dingue. Qu'est-ce que c'est qu'une granothèque ?
Une grénothèque.
Une grénothèque, pardon.
Grénothèque
avec les granolas, pardon.
Une grénothèque, il y en existe plein partout, des grénothèques, c'est un espace de libre-échange de graines. Donc on vient déposer des graines et on vient chercher des graines pour pouvoir les mettre initialement plutôt dans les potagers. Donc initialement c'était plutôt des graines de potager. Et là ça fait 4 ans maintenant qu'on a lancé un projet avec une association adhérente qui s'appelle Gentiana. qu'on a appelé SEM sauvage. Mmh. Donc c'est une grénothèque particulière sur les plantes locales et sauvages. Donc c'est toujours sur le même principe de projet citoyen. Je récolte des graines, je viens échanger des graines, je viens chercher, je me renseigne comment on fait, etc. Mais avec la facette de sensibilisation à l'écologie, puisque...
Donc ça peut être des plantes, je sais pas, médicinales ou des
plantes... Ça peut être des plantes médicinales, ça peut être des plantes comestibles, ça peut être des plantes juste ornementales. Mmh. L'idée, c'est de montrer qu'avec les plantes locales, on peut avoir un très beau jardin. Et il est bien plus bénéfique au niveau écologie et biodiversité.
Oui, qu'elles soient endémiques, du coup, et voilà. Elles sont adaptées au territoire sur lequel elles poussent.
Elles sont adaptées au territoire, les insectes et autres petites bestioles sont adaptées à ces plantes-là, puisqu'ils ont coévolué ensemble. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un intérêt pour la biodiversité locale. Et voilà, donc vous pouvez trouver cet espace-là à la MNEI. Et puis on forme aussi les personnes intéressées, donc là aussi plutôt des médiathèques, puisque initialement on retrouve des grénothèques dans les médiathèques, mais pas que, voilà, on peut, toute personne qui souhaite installer une grénothèque dans sa structure,
donc on peut venir vous la former. On peut venir vous voir tout simplement et apporter quelques graines ou en prendre quelques-unes et faire un échange comme ça pour semer à qui mieux dans les jardins ou dans les potagers, très bien. Alors il faut dire aussi que vous serez présent, hein, n'est-ce pas, à la MNEI lors du forum des associations de la ville de Grenoble qui se tient le 14 septembre prochain de 9h, de 10h à 18h, donc au Palais des Sports de Grenoble.
Tout à fait.
Donc on peut là aussi venir vous voir.
Alors on sera dans un espace dédié économie sociale et solidaire et environnement. Donc on aura un pôle central avec Alpes Solidaires. Donc il y aura tout un espace avec des associations locales à la fois de l'environnement et de l'économie sociale et solidaire, avec des animations et un jeu fil rouge aussi, toujours dans l'idée de créer du lien et du réseau. Donc il y aura un jeu sur cet espace pour que les gens puissent faire du lien entre les acteurs de l'environnement et de l'ESS.
Très bien. Et donc pour ceux qui ne pourraient pas venir le 14, peut-être qu'il y en aura quelques-uns.
Et alors, pour ceux qui ne peuvent pas venir le 14, on ouvre la médiathèque plus tard, le mardi 17. Voilà, habituellement, on ferme à 18h, donc là, on sera ouvert jusqu'à 19h30.
De 13h à 19h30.
Voilà, de 13h à 19h30. Donc, c'est l'occasion pour tous de venir dans les locaux ce jour-là. Ça sera vraiment dédié pour qu'on vous présente plus spécifiquement les associations, nos actions, nos programmes, nos... Voilà.
Est-ce que, justement, dans les perspectives futures assez immédiates, vous pensez qu'effectivement, la Maison de la Nature et de l'Environnement continuera de se développer en partenariat? Justement, vous parliez de la Maison de la Nature et de l'Environnement de Lyon,
oui.
de faire comme ça des co-réalisations, en tout cas des échanges de pratiques ou d'informations, tout simplement. C'est important d'être en réseau aujourd'hui.
C'est très important d'être en réseau. On n'a aucunement l'intention d'arrêter. Et on est justement en train de se rapprocher fortement du réseau des CPIE, Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement. Donc c'est un réseau national qui va nous permettre d'accéder à plus d'outils pour le grand public, à plus d'outils d'accompagnement, d'aborder des thèmes santé-environnement aussi, sur avec des projets en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé. On va développer encore plus d'activités dans ce cadre-là. Mais on vous donnera des nouvelles prochainement.
Très bien. Merci beaucoup Rachel Julien, merci à toutes les équipes. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure radiophonique. Nous serons en compagnie de la CNL, la Confédération Nationale du Logement, de 12h30 à 13h, en compagnie de M. Mathias Mansouroui. Merci à vous. On part tout de suite sur l'actu de la région grenobloise sur RKS 97 FM.